Pour une société meilleure, dont Israël est dirigeant, où ils pourraient faire leur beurre. Voici le flot des étudiants, propres sur eux et non violents, qui s'en vont grossir les rangs, des bureaucrates et des marchands. Étudiants, poil aux dents, je suis pas tout comme Pataras, mais je sais que le coup de pied au cul, que je file aux bourgeois qui passent, ils viennent d'école de la rue, et ils s'allient ma godasse. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant, alors que tu seras moins que rien. Ah ouais, ça, je veux bien. Étudiant en architecture, dans ton carton à dessin, y a l'angoisse de notre futur, y a la société de demain. Fais-les-nous voir tes projets et la couleur de ton béton. Tiens, chez l'être sophistiqué, on n'en veut pas dans nos maisons. On se les construira nous-mêmes sur les ruines de tes illusions. Et puis on prendra en main, quoi donc, que l'habitat urbain. Je sais, ça te fait pas marrer, je pouvais pas m'en empêcher. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, gangster. Étudiant en médecine, tu vas marder pendant 7 ans pour être marchand de pénicilline, tes saloperies de médicaments. Aux bourgeois, tu refileras des cancers à tour de bras et aux prolos des ulcères, parce que c'est un peu moins cher. Et tu remontes qu'à besoin de toi, là c'est sûr que t'iras pas, malgré tous ceux qui vont crever. T'oublieras que je t'ai chanté, la médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Mais alors, qu'est-ce que tu veux être? Je sais pas, moi, poète. Étudiant en droit, y a plus de fachos dans ton bastion que dans un régiment de paras. Ça veut tout dire, t'es du con, demain c'est toi qui viendras dans ta robe ensanglantée pour faire appliquer tes lois que jamais on a votées. Tu finis juge ou avocat, ta justice on n'en veut pas. Puis si tu finis notaire, peut-être qu'on débarquera chez toi pour tirer les choses au clair, et tant pis s'il est pas là. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, infirmière. Étudiant en queue dalle, tu glandes dans les facultés. T'as jamais lu le Capital, mais il y a longtemps que t'as pigé qu'il faut jamais travailler et jamais marcher au pas. Leur culture nous fait gerber qu'on veut pas finir l'oufia au service de cet état, de cette société ruinée. Des étudiants respectables espèrent un jour diriger, entraînant dans leur cartable la connerie de leurs aînés. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah ouais, ça je veux bien. Ha ha ha.
comme Chaloire. Faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour, et nous avons deux invités aujourd'hui qui viennent de Démocratie. Bonjour.
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 Alors, je vous laisse vous présenter.
Ouais. Maréchal Tointoin, ministre de la propagande à Démocratie.
Et Gaspard, son adjoint à Démocratie.
Eh bien, bienvenue.
Ouais, j'ai un adjoint. Trop bien.
Alors, Démocratie, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de personnes concernées par la psychiatrie. Survivants, anciens psychiatrisés, psychiatrisés toujours.
Collectif qui rassemble des fous, des folles, également des ouvriers du soin en révolte. Et voilà, on est sur à la fois sur Vitry-sur-Seine et sur Montreuil, donc en banlieue parisienne.
Alors vous êtes toujours aussi sur Montreuil parce qu'il y avait un lieu qui avait fermé qui s'appelait Hangar.
Ouais, donc le Hangar s'est fait expulser. C'était donc un squat à Montreuil qui s'est fait expulser grâce à la loi, je sais plus le nom du mec, Kasbarian je crois. Donc dans des conditions un peu dégueulasses. Et bon, nous on s'est retrouvés, on a été... Et on a eu la proposition du GEM, les gens du 110 de Montreuil, de nous accueillir.
Ah oui.
Et donc on se retrouve là-bas, pour l'instant, c'est tous les jeudis à partir de 17h30, 18h, dans leurs locaux au 110 avenue Salvador Allende, métro 11, métro Ladouis. Voilà.
Le nouveau métro.
Nouveau métro, ouais. Ouais. Et puis sur Vitry, on est pareil, on n'est pas chez nous, on est hébergé par le centre social des Portes du Midi, qui se trouve à Costan-Coquelin, donc un peu dans les, c'est un peu au milieu de la cité, mais c'est plutôt vers les nouveaux quartiers de Vitry.
Et donc on va parler de justement ce lieu, de ce qui va se passer dans ce lieu le 22 de ce mois, qui va être l'inauguration
du nouveau café Démocratie.
Oui.
Donc événement international, puisque café, on ouvre à nouveau, puisqu'on en avait déjà ouvert un sur Montreuil à l'époque du Hangar. Mmh. Donc on ouvre un nouveau café que nous on appelle café psitoyen pour faire Démocratie psitoyen. Mais du coup ouais, un nouveau lieu où on se mélange, on s'hybride avec la cité quoi, la cité au sens large.
Mmh.
Et on accueille les fous, les folles et voilà. Et on essaie de penser ensemble cette question-là. Et la question de la folie, et la question du soin, et la question de la santé mentale dans la cité, et forcément le problème du capitalisme, du racisme, et la LGBTophobie, etc. etc.
Oui. On peut rappeler que vos références... sont les luttes un peu de, par exemple aux États-Unis dans les années 60-70 avec les Lords,
les Young Lords,
les ouais. Young Lords ouais.
Ouais, qui sont donc les espèces de Black Panthers portoricains qui ont pris Donc c'était à New York. Alors je suis désolé si je dis des bêtises, mais c'est un quartier populaire. Alors je sais plus si c'est le Bronx ou un truc comme ça. Mmh. Et devant l'incurie de l'hôpital qui est sur leur quartier et qui fait que tu rentres dans cet hosto, tu risques de repartir les pieds devant. Ils ont aussi la question de la drogue qui se pose sérieusement là-bas, où ça décanille à tout va, et du coup ils décident de s'organiser et mener une action un peu symbolique coup de poing, c'est de prendre l'hôpital. Et donc ils vont rentrer dans l'hôpital, il y a toute une organisation qui se met en place. Il y a un documentaire qu'on peut retrouver sur internet, alors qui n'est pas sous-titré, voilà, mais en tout cas il existe, et ça raconte cette histoire-là où pendant, je crois, 24 heures, ils vont prendre l'hôpital, et moyennant quoi, ils obtiennent à cette sortie-là de pouvoir ouvrir un centre de désintox et de pouvoir remettre un peu en question la gestion de l'hôpital et des soins, quoi. Donc ça fait partie d'une de nos influences, parce qu'on en a de multiples, oui. Puisque démocratie est multiple.
D'accord.
Mais oui, ça tourne autour d'idées révolutionnaires, radicales, de la question aussi pour nous de comment on prend les soins, quoi. Comment c'est à nous de s'en occuper, et c'est plus aux psychiatres et aux gestionnaires de s'en occuper. Ils ont montré leur inefficacité. Et la maltraitance, que ce soit évidemment en premier lieu des psychiatrisés, mais aussi des travailleurs. Et voilà, nous on dit que ça suffit mmh. comme si, et mmh. c'est à nous de s'en occuper maintenant.
Moi pour ma part, je peux témoigner du comment je me suis retrouvé à Démocratie. Et en fait, c'est une lecture du livre de Gérard Hoff, Je ne serai plus psychiatre. Qui s'était passé à la librairie, et justement on s'était rencontrés, et j'avais eu envie d'agir ou de rejoindre des agissements, ou en tout cas de continuer à me poser les questions comment faire, et du coup tu m'avais conseillé Démocratie. Donc je pense que cette ligne de ce livre, Je ne serai plus psychiatre, et les activités au Vignatier pour moi sont aussi une influence possible.
Oui, c'était dans les années 70 aussi.
Mmh. Oui, puis dans, je crois, dans ce livre-là, ça parle à un moment du SPK, si je ne dis pas de
tout
bêtises. Voilà, qui est aussi un truc qui nous a fait briller les yeux.
Et oui.
Et donc vraiment là, pour le coup, des psychiatrisés qui prennent l'hôpital en Allemagne. Je ne sais plus non plus quel bled. Moi, je bois beaucoup trop pour avoir de la mémoire.
Heidelberg. Ouais. Eh bien, nous allons faire une première pause avec un morceau, Little Sims, Boss.
Discover the mind. Stop fucking with my heart. Nigga, you lost my dream, fool. the pattern, follow the rhythm. I disregarded all opinions and continue my mission. Unapologetically, I'll be bossing it, getting better with age. Got it back, never lost it, my legacy remains. Rejected the dotted line, but not the pen. Invested in myself, that was money well spent. Came home, mommy burning incense. Remember trying to think of ways to help contribute to the rent. Now the room's up, stay top, sweet penthouse views, but it's not family or friends. What life do I want? No, I gotta choose, for it's too late. Well, I guess it all depends. I was running with Toby and them. Never looked back once I discovered a pen. Dedicated it all to the art. Who would have known it would be this from the start?
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste. Et c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, avec aujourd'hui Démocratie. Donc Démocratie qui inaugure son café Démocratie.
Et je voulais rajouter qu'on a on a invité les plus grands artistes. Pour cette inauguration, donc ce sera à partir de 18h, mais on aura Queen Lakima, on aura Julio Merguez et Gasparitos, les Sœurs Balber, et il y a un DJ set avec DJ Valerian. Voilà, ça va être une très grosse soirée.
Super. Donc, je vous propose de vous lire maintenant un article intitulé « Parlons de santé mentale ». Un article de Léna Dormeau, est issu du site manifesto21.com. Alors, le titre est plus long que ça, c'est « Parlons de santé mentale et folie douce et discours tiède ». Les productions médiatiques sur la santé mentale se sont multipliées, mais quelles discussions servent-elles ? Dans cet article, la chercheuse indépendante Léna Dormeau propose une réflexion critique de la circulation des paroles de la souffrance psychique. C'est un article du 14 mars 2024. La journaliste Lorraine Bastide a dévoilé Folie Douce, un podcast de conversation intime pour libérer la parole sur la santé mentale. Je ferme les guillemets. Le descriptif donne le ton. Sans surprise, ce sera donc la formule gagnante de La Poudre, son podcast précédent, des témoignages intimes dans une ambiance feutrée, couplé à l'un des thèmes les plus vendeurs de ces 15 dernières années. Qu'on s'entende bien, je n'ai plus, écrit l'auteur, je n'ai plus en grippe le podcast de Lorraine Bastide, je n'ai pas plus en grippe que n'importe quel autre contenu ayant le souhait de « parler de santé mentale », entre guillemets, sans jamais la définir. Bon, je reconnais, pour le coup, le titre me crispe un peu, mais on y vient après, le sujet va bien au-delà de cette seule production. Alors, je fais une première pause. Pour dire aussi que vous pouvez très bien interrompre la lecture si vous avez des remarques à faire sur ce sujet. Okay. Si l'effet d'annonce produit un engouement médiatique à la mesure de la notoriété de la productrice, le projet en tant que tel est en réalité la réplique d'un format maintes fois réchauffé et finalement assez convenu. Il s'insère sans originalité dans un paysage sonore déjà très fourni et simultanément assez confus sur le sujet où chaque contenu sur, autour, à propos de la santé mentale, présente globalement une structure assez identique. Le choix narratif fait la part belle aux témoignages à la première personne et les difficultés et souffrances vécues peuvent toutes être rapportées à une catégorie diagnostique du DSM. dépression, TDAH, bipolarité, troubles borderline, etc. Sans surprise toujours, la question de l'apaisement de la souffrance n'est abordée que sous son versant thérapeutique, médicamenteux et ou psychologique, mais jamais en termes politiques. Durant les dernières années, j'ai consommé énormément de ces récits, certains d'entre eux m'ayant particulièrement touché, faisant écho parfois à mon propre parcours. Et c'est précisément à cet endroit qu'est née une importante partie de mon travail. Car si la sensibilité à cette forme de narration testimoniale peut atténuer, voire désamorcer la critique, quelque chose en moi continuait pourtant de résister à cette seule mécanique émotionnelle d'affiliation. Pour le dire autrement, il n'est pas aisé d'opposer quoi que ce soit à une histoire singulière lorsqu'elle est présentée comme un simple témoignage. Pourtant, ces simples témoignages sont bien inscrits dans une ligne éditoriale portant, elle, des objectifs clairs et revendiqués quand ils ne sont pas directement économiques. Libérer la parole, redonner espoir au travers d'histoires inspirantes de rétablissement, dédramatiser et démocratiser la santé mentale, briser les tabous, etc. Parler sans entrave comporterait alors presque par essence tous ses corollaires. L'apaisement, le partage, la déstigmatisation, la démocratisation, voire une modification organique des politiques publiques et des structures sociales. Or, cela n'est évidemment pas le cas. N'en déplaise à celles et ceux qui s'accrochent à cette idée, non, parler ne suffit pas. Plus encore, cela peut être dangereux, mais comme toujours, tout dépend de qui parle. Si l'argument est implacable, il n'en reste pas moins central. Seules les personnes pouvant parler parlent. J'utilise ici le verbe « pouvoir » non pas pour désigner une capacité effective à s'exprimer, qui serait par ailleurs validiste, mais bien pour souligner la présence ou l'absence de sa possibilité même. J'importe ici les précieuses réflexions de la philosophe et théoricienne post-coloniale Gayatri Chakravorty Spivak, qui, dans « Les subalternes peuvent-elles parler ?», c'est le titre, répond par la négative à cette question. S'interrogeant sur les conditions de possibilité de la prise de parole des femmes indiennes, historiquement dominées, Spivak analyse le processus de subalternisation et identifie, outre un rapport de force matérielle, que la confiscation d'un discours permettant l'autoreprésentation constitue une forme de domination dont il est quasi impossible de s'extraire. Selon elle, et je la rejoins sur ce point, écrit l'auteur, toute parole subalterne, tant qu'elle est formulée dans la langue dominante et aussi oppositionnelle soit-elle, reste à jamais tributaire de la matrice discursive qu'elle confirme par le fait même d'intervenir en son sein. Alors la matrice discursive, c'est ce que c'est. Je peux donner un exemple. La matrice discursive de l'extrême droite, c'est l'immigration. Voilà. Car cette audibilité, quoi qu'on en dise, comporte bien des conditions, souvent tacites et à peine conscientisées. En premier lieu, le cadre d'écoute et de recueil de la parole n'est jamais neutre. Pour le dire en des termes qui me sont plus familiers, celles et ceux qui tendent le micro sont propriétaires ou détenteurs ou tristes des moyens de production des contenus et de leur diffusion. À la question « Mais qui sont donc ces producteurs et tristes qui règnent en maître sur, et en maîtresse sur nos oreilles ?» La réponse est sans appel. Majoritairement des personnes blanches issues des classes moyennes et supérieures éduquées, dont l'appétence pour ce format testimonial, plus qu'un effet de mode, reste un marqueur de classe permettant d'asseoir sa légitimité au sein de la hiérarchie sociale. Aussi bien intentionnée que soit la démarche, donner la parole dans un espace contrôlé n'a que peu à voir avec un réel partage de l'espace médiatique, du pouvoir politique, des moyens économiques, de la production. C'est pourquoi, très logiquement, le discours produit s'accorde également aux codes et contraintes structurelles du système au sein duquel il s'exprime. Il sera donc invariablement organisé, résilient et émotionnellement stable, bien qu'émouvant. Plus important encore, il doit se rapporter au vocabulaire hégémonique sur la souffrance, donc issu du champ psy. Là, je vais peut-être lire la note 6. La note 6, le symbole diacritique permet d'englober tous les champs, de domaine psy, le psychiatre, psychiatrique, psychologique, psychanalytique, psychothérapique, que je ne distingue pas ici, écrit l'auteur. J'en étais où ? Le voilà. Valoriser un travail sur soi, alors ça c'est encore le discours convenu. Valoriser un travail sur soi ayant eu des effets positifs notables et surtout rappeler que, in fine, il y aura toujours des professionnels de la santé mentale et ou de la psychiatrie pour vous aider. L'ultime tabou à briser sur la santé mentale était donc celui-ci et la conclusion désormais toute trouvée. Allons chez le psy ou la psy et parlons-en ouvertement. Ne sommes pas tous et toutes un peu fous et folles finalement ? Bon, je spoil d'entrée de jeu. Non, nous ne sommes pas tous, toutes fous ou folles. Se dire un peu zinzin ou parler de folie douce, ça pose quand même quelques problèmes. Non pas, comme j'ai pu le lire, qu'on aurait à s'offusquer qu'une journaliste traite ce sujet sans être « experte », entre guillemets, mais bien parce que le concept de santé mentale a été forgé justement pour être distinguable de la folie. Je me permets au passage de souligner que l'accusation de non-expertise récurrente et adressée tous azimuts en dit long sur les professionnels de la santé mentale et la défense de leur monopole. Bref, ce que l'on sait désormais grâce à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est que tout le monde a une santé mentale. Elle serait un universel envisagé comme un, alors là je cite la définition de l'OMS, état de bien-être qui permet à chacun, chacune de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Fin de citation. Si j'étais taquine, écrit l'auteur, je pourrais dire que ceci est la définition de la conformation à la norme dominante, et que, à ce titre, la santé mentale est un concept néolibéral de marchandisation de la souffrance psychique au service de l'ordre social. Mais recentrons-nous. L'idée qu'à l'instar de la santé, nous avons tous et toutes une santé mentale visait à rompre avec le clivage sain d'esprit, malade mental, au profit d'un continuum d'une santé mentale pouvant être émaillée de troubles. Ainsi, la statistique selon laquelle une personne sur cinq sera touchée par un trouble psychique psychiatrique au cours de sa vie devient le terreau d'une nouvelle norme saniste que les podcasts de témoignages renforcent à grands coups de résilience et de souhait de déstigmatisation des troubles plus que des personnes d'ailleurs. Le sanisme, appelé aussi mentalisme, qui est un anglicisme dérivé de sanisme ou mentalisme sans le E final, désigne le fonctionnement d'un système d'oppression permettant, voire encourageant, la maltraitance des personnes perçues comme folles sous couvert de les entraîner vers plus de sanité d'esprit. Car si tout le monde est concerné par la santé mentale, en revanche tout le monde n'est pas fou, et les vrais fous folles, il faut bien les soigner, de gré ou de force. Parler des difficultés qui jalonnent le quotidien permet alors d'éclairer son parcours en lui donnant un sens, tout en agissant comme un soulageant révélateur. Ouf, je n'étais donc pas fou ni folle. Avec une forme d'efficacité opératoire, c'est-à-dire qui n'a pas d'autre valeur que de fonctionner, se raconter offre le sentiment de s'en être sorti, s'en sortir, et d'une certaine façon de pouvoir poursuivre une vie normale. De ce point de vue, les troubles présents en début de spectre vont être considérés comme peu invalidants, car ponctuels et ou de faible intensité, et permettant à l'individu de rester fonctionnel, quand l'autre extrême visera davantage des troubles perçus comme plus lourds au plan clinique et nécessitant davantage d'attention psychiatrique. Être folle, adjectif épicène pour fou et folle, c'est n'être même plus sur le spectre et parfois n'y avoir jamais été. S'auto-désigne comme folle des survivants et survivantes de la psychiatrie ou psychiatrisée, étant toujours ou ayant été l'objet du pouvoir psychiatrique et le dénonçant comme système illégitime, non pourvoyeur de soins, et produisant de la coercition et de la normalisation. La folie, pour nous, renvoie à une relation de pouvoir, un rapport historique de domination, à une volonté validiste de neutraliser la différence radicale et de la mettre hors d'état de nuire à l'ordre social. Elle est une construction sociale dont l'institution psychiatrique s'est portée garante et gestionnaire. Institution qui ne répond, par la contrainte, la contention et l'enfermement, qu'à sa propre incapacité à considérer la souffrance hors norme et les expériences minoritaires, écologiques, sensorielles, imaginaires, etc., dans ce qu'elles ont de plus déstabilisante. Dire qu'une catégorie est une construction sociale ne signifie nullement qu'elle n'a aucune existence ni conséquence dans le monde, bien au contraire. Si la folie résiste, c'est parce qu'elle est intraduisible. Si les folles résistent, F ou LS, c'est parce qu'elles ont repolitisé leurs conditions et ont compris que se fondre dans la narration dominante serait une nouvelle mort. « Je ne romantise pas la folie », écrit l'auteur, « parce que nous mourons. Bien plus que les non-folles, nous sommes plus maltraités, plus violés, plus précaires, plus enfermés, plus contrôlés, plus rejetés, plus à risque de développer des maladies chroniques, plus vulnérables aux addictions, presque tous et toutes polytraumatisés, et bien plus suicidaires. La folie n'est jamais douce et ne s'exprime pas derrière un micro dans une narration convenue et inspirante. Elle est proprement inaudible, délirante, sans contour, multiple, critique, fragmentée, protéiforme. Et parce qu'elle échappe à toute classification, elle est durement réprimée, sauf à avoir cédé, au moins partiellement, aux sirènes renormalisatrices des structures dominantes, ce qui est mon cas. Les folles restent les ingérables de ce monde, les sans-voix de l'histoire, des figures du débordement qui justifient leur contention et leur oppression au nom du soin. Mon allégeance, je le sais, est la condition de mon audibilité. Personnellement, c'est surtout ça que j'aimerais qu'on libère la parole. Mais comment libérer la parole quand celle-ci est perçue comme une déraison? Ou plus sûrement, comment libérer la parole sur la folie alors que les folles, F-O-L-S, ne peuvent pas parler? Il n'y a plus personne pour parler de santé mentale dans ces moments-là. Et c'est dans ce silence que nous existons. Moi, j'ai bien aimé cet article.
Bah, moi je souscris. C'est un peu nous aussi la réflexion sur le fou folle comme construction sociale, historique, fait d'oppression, de discrimination, et qui s'agit d'organiser. Voilà, c'est un peu aussi. Nous on veut participer à ça, à démocratie en tout cas.
Alors vous n'entrez pas dans les catégories de podcasts cités par Léa Dormeau. Vous avez votre podcast?
On a notre podcast qui s'appelle Potocasque, à retrouver sur Spotify. Non, je crois pas. Je crois qu'en tout cas, nous, on peut raconter nos expériences, mais c'est au titre de les politiser, quoi. C'est ça notre question. C'est pas. Et on ne cherche pas effectivement à être inspirant, je ne sais pas. Je pense que pour nous, ça l'est. C'est inspirant de se politiser et de confronter nos expériences, se rendre compte qu'elles sont ancrées dans un système qu'il va falloir remettre en question. Quoi. Voilà.
Et c'est là où je suis assez touché par cette réflexion sur le témoignage et du coup cette matrice systémique, dans le sens où moi effectivement quand je me suis retrouvé dans une position pour témoigner, en fait il y a une espèce de soulagement mais qui se mêle à une sensation d'être un objet, parce qu'en fait je témoigne dans un monde sur lequel j'ai pas prise, et qu'il y a quelque chose dans les groupes de parole, notamment à Vitry, où le fait de me mettre dans cette position là d'un moment pouvoir être du coup en situation de victime, mais tout de suite après de pouvoir agir dans un collectif et de partager un idéal et de discuter de cet idéal dans lequel on est, il y a quelque chose où je me réapproprie en fait cette chose-là, et c'est ce qui m'amène aussi à peut-être je suis fou et j'appartiens à une catégorie sociale et c'est une réalité pour lutter, mais quelque part le fait d'agir aussi et de se dire quel monde on construit ensemble, il y a un truc où moi la notion de différence psychique peut arriver aussi, Et c'est là où j'ai l'impression que dans Démocratie, il y a vraiment une question de ça, cette catégorisation, qui peut être une assignation, mais aussi cette définition qui peut nous permettre de nous situer. Et je trouve que ce mouvement-là est, en tout cas, est palpable. Donc je me reconnais beaucoup dans cet article aussi.
Alors on va, comme on parle de ce concept de santé mentale, on peut évoquer l'initiative de Comme des fous, qui voudrait répondre à un événement qui est un événement national sur la santé mentale.
Oui, donc le contexte, c'est la grand-mère à Barnier qui était à l'UNAFAM ou je sais pas trop quoi. Du coup, Barnier, il a décrété grande cause nationale 2025, la santé mentale. C'est construit dans la foulée un collectif pour animer cette grande cause nationale où on retrouve notamment Fondamental et voilà, pas mal de l'UNAFAM évidemment, enfin pas mal de trucs institutionnels plus que Macron compatibles, mm-hmm. avec aussi des prises de guerre un peu vers la gauche, mais enfin rien qui nous fasse penser que on va aller autrement que vers une santé mentale capitaliste. Et du coup, alors je me semble que ça, en tout cas, c'est passé par Instagram, c'est à l'initiative, il me semble, de Comme des fous, mm-hmm. et qui propose un contre-collectif, une contre-initiative à retrouver. Donc sur leur Insta, il y a une proposition de communauté WhatsApp pour s'organiser, se rencontrer localement. Parler de l'ouverture d'un lieu subversif, un lieu commun sur la région parisienne, et puis se discute aussi une Mad Pride 2025 et une Mad Pride qui serait un petit peu qui reviendrait aux sources, quoi, aux fondamentaux, et pas ce qu'on a connu en France où c'était un truc cucu, oui. Dépolitisé.
Et d'accord. Alors.
Oui, mais je voulais revenir aussi sur l'article qui était vraiment chouette, aussi sur la question du rétablissement, parce qu'elle en parle un petit peu. Et effectivement, le rétablissement, la manière dont il est proposé aujourd'hui dans les discours, dans la matrice, c'est vraiment un truc individualiste. Sors-toi les doigts du cul et tu peux y arriver, quoi. Donc nous, on essaie de faire vivre, parce qu'il y a différents, enfin voilà, c'est un peu des mots, c'est des mots à remplir, c'est des mots creux à la base, on va dire, enfin pas vraiment, parce qu'il y a une histoire du rétablissement qui vient des survivants de la psychiatrie, et nous on essaie de faire vivre le rétablissement dans sa version autogestionnaire, quoi. Et du coup, nous on essaie de penser de faire vivre, d'expérimenter le rétablissement collectif. On pense qu'il n'y a pas de... le rétablissement individuel, il est intrinsèque au rétablissement collectif, quoi. Et c'est pas... Voilà, c'est l'émancipation, elle se passe pas par un individu ex nihilo, ça marche pas comme ça. Et que c'est parce qu'on s'émancipe en commun qu'on peut être mieux individuellement, quoi. On peut se sentir mieux dans la communauté, quoi.
Et c'est dans la perspective de cette dimension collective du rétablissement que se prépare un forum rétablissement.
Alors, il a eu lieu.
Ah, ça y est.
Oui, il a lieu chaque année. Je crois depuis 2016. Et donc, nous, on y a été invités. Le thème, c'était le rétablissement collectif.
D'accord.
Alors, c'était du rétablissement collectif au rétablissement individuel. Mm-hmm. Donc, déjà, on a senti un truc. Il est déjà un tilt, quoi, mais ouais. Mais du coup, là, on était aussi intéressé de participer. C'était quand même le forum rétablissement. C'était un endroit où c'est donc des tables rondes qui sont quand même largement représentées par des personnes concernées. Il y a eu plusieurs fois des discours assez politiques dans ce forum, et il y avait aussi la participation du public. Donc il y avait des vrais débats et c'était assez riche. Maintenant, comme l'a dit très bien l'autrice, il y a aussi une matrice discursive.
Oui.
Mais toujours est-il qu'il y avait, c'était quand même un lieu d'expression qui n'était pas inintéressant à investir. Sauf que cette année, il n'y a pas eu d'échange avec le public. Voilà, cette option a été prise. Ce serait beaucoup à questionner. Et puis finalement, la question politique c'est très très peu posée. Il n'y a pas eu vraiment de débat autour de ça. Et la question du rétablissement collectif, enfin, je crois que ça a été vraiment plus que survolé, quoi. C'était un peu le ressenti nous qu'on a eu. Même si on a pu parler de démocratie, même s'il y a eu des prises aussi de paroles qui n'étaient pas. Il y a notamment un psychologue communautaire qui nous a bien fait briller les yeux, qui a parlé de son expérience.
Et puis le moment où ça a été ouvert aux questions, où finalement il y a eu des conflits,
tout à la fin,
qui ont pu avoir lieu, mais c'était très court et c'était un peu, à la fin, quoi. C'était pas primordial.
Ça s'est passé quand
C'était le 7 novembre, et ça a lieu en général en novembre à la Cité des Sciences.
D'accord, oui.
C'est dans l'auditorium.
Ah oui. Il n'y a pas le rêve qui fait partie un peu de ce, le rêve France.
Alors, je pense qu'ils sont déjà intervenus, le rêve. Il y a eu aussi Comme des Fous qui est déjà intervenu, Cléautiste. Il y a eu des passages assez chouettes. Donc on voulait notre nom aussi au tableau.
Pour la gloire.
Voilà. D'accord. Allez, on écoute une deuxième chanson.
Nous les autistes, on fait n'importe quoi. Au lycée, les gens aussi font n'importe quoi. Ils cassent les crayons, les tableaux, les plats. Là, il est 11h moins le quart. Et là, je suis en retard. La maîtresse va me gronder. J'irai dans le bureau du directeur. C'est une école à Paris dans le 27e arrondissement, rue Jean-Louis Pasteur. On me gronde parce que je n'arrive pas à faire des efforts. On me gronde parce que je ne suis pas fort. Maintenant, il est midi moins 20. J'ai très faim. Je suis privé de repas. Je suis privé de plats. L'école de Paris est grande, beaucoup plus grande que la classe de Christine au centre. C'est pas un vrai lycée ici. Ici, on est dans un établissement pour autistes. Dans une classe de l'éducation nationale pour autistes. L'école de Paris est très grande. J'ai peur que les gens viennent me taper et les filles me crachent dessus. Et après je pleure. Où est donc passée ma maman? J'ai envie de la retrouver à la maison. Je vais dire à mes parents que cette école est plus terrible que la mienne. C'est une prison, j'ai peur de l'école ordinaire. J'aurais peur si j'étais au lycée. J'aurais peur si j'étais au lycée. J'aurais peur si j'étais au lycée. J'aurais peur si j'étais au lycée.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération Anarchiste, c'est toujours l'entonnoir, l'émission critique de la psychiatrie. Avec Démocratie, ici présent, la personne...
Tu peux dire Antoine, c'est de Maréchal Tontrain.
D'Antoine et...
de Gaspard.
Gaspard. Donc... eh bien, je vous laisse la parole. Voilà.
Eh bien, il y a quelque chose... dans Démocratie, j'ai l'impression qu'on... En tout cas, on a, même si on parle beaucoup de collectif, en fait, c'est composé d'individualités. Et on a tous notre place pour apporter quelque chose, j'ai l'impression, en tout cas. Et du coup, moi, il y a un truc qui me touche aussi par mes pratiques au quotidien, c'est le lien entre l'art et la folie. Et par extension, cette figure du fou au sein de nos sociétés, et du coup, à quel point ces figures créent ou pas de la psychophobie, à quel point c'est construit. Et j'ai l'impression que, du coup, l'art peut faire office de grande matrice de propagande aussi. Et dans ce questionnement, je me suis retrouvé à l'exposition au Louvre Figure du fou, figure S fou sans S et figure du fou, ouais. Et du coup, voilà, dans cette logique collectif individuelle, il y a un truc qui me marque un peu, c'est-à-dire que si je reprends un peu les fous au Moyen-Âge, les fous et folles font rire les riches, on les prend un peu à la cour, finalement on les affuble un peu de couleurs, de tout ça, et puis on rit d'eux, et donc il y a cette position là, et puis finalement le temps passe, et puis il y a une sorte de réappropriation peut-être de ce savoir-là de représentation au sein de la cour. Il y a des écoles de bouffons qui se mettent en place. Et du coup, c'est plus des gens qui sont fous, folles, ou en tout cas, mais des professionnels. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change dans le fait où le bouffon peut finalement devenir un représentant ou une représentante de personnes qui sont finalement en marge. Et ils s'en sortent avec... alors il y a ce truc du bouffon qui a des traits d'esprit, qui est finalement le Morozov, un fou qui est sage, et on voit dans Shakespeare qui est peut-être moins fou que les aristos et les rois et reines. Et du coup, il y a cette chose-là, mais on part quand même du fait que les fous et les folles, ils font rire. Et ils doivent être là pour servir quelque chose. Et du coup, c'est un peu ça. Donc, et du coup, dans cette exposition, j'ai l'impression que voilà, on regarde le fou, qu'est-ce qu'il est, et puis finalement, ça dérive vite, comme le documentaire qu'on a vu, où oui, la folie de l'amour. Et donc, du coup, la folie, finalement, c'est plus vraiment une catégorie sociale ou une souffrance, mais c'est finalement un trait qu'on peut avoir, comment on vit sa vie, on est pris par l'amour et tout ça. Et moi, j'ai quand même envie de rappeler, en tout cas, quelque chose, ou en tout cas faire une lecture où je me relis à quelqu'un qui a écrit sur Rabelais, Mikhaïl Bakhtine, qui dit quand même que le bouffon, c'est quelqu'un qui est un artefact du carnaval. Et qu'en fait, cette aventure-là, avant qu'elle soit reprise par les dominants qui décident de faire rire, il y a un moment, en fait, c'était un événement de la place publique, où c'était des gens. La place publique au Moyen-Âge, c'était où tout se passait. C'était un endroit populaire de partage, de réflexion, et jusqu'à ce qu'il y ait ces moments de carnaval où, justement, en fait, on vivait quelque chose, et on vivait ce qu'on appelait une certaine folie, mais je suis même pas sûr que c'était forcément caractérisé comme tel. On peut le relier aux diableries aussi, où c'était un moment où on se permettait de plus être dans certains carcans. Et que du coup, il n'y avait pas que ces fous à la cour, il y avait aussi des fous populaires.
Mais c'était carrément subversif, les carnavals.
Et c'était extrêmement subversif. C'était condamné, essayé d'être enlevé, je ne sais plus, 500 fois
par l'Église. Et donc, du coup, moi, ce qui me dérange un peu, c'est justement d'individualiser cette figure et de, en fait, lui enlever son monde. Et du coup, j'ai l'impression que bah, ce fou, cette folle, bah, encore une fois, il témoigne dans une certaine matrice. Et donc, du coup, après, bah, on peut l'isoler et lui faire porter une responsabilité morale pour dire dans les tableaux ben, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, alors qu'en fait la question morale sur la place publique au carnaval, à la fête des fous, n'avait pas lieu. Et qu'il y a un truc où moi je suis sensible à ça, et notamment au café, d'essayer de reprendre ça, de dire mais en fait pourquoi on n'essaie pas de se poser la question du monde dans lequel on est, et est-ce qu'il nous va, est-ce qu'il nous va pas, plutôt que toujours intérioriser cette question individuellement, de se dire ben est-ce que je suis conforme, et qu'il y a quelque chose, moi, dans ma propre vie, j'ai l'impression qu'on m'enlève ce monde, et on dépolitise la question de la folie, dans le sens où, ben, en fait, il y a des causes à la folie. Je veux dire, la torture, c'est quand même le début de l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault. C'est la torture, c'est qu'il y a un moment, en fait, il y a des conditions à la folie, et que, du coup, ben, il y a des mondes qui créent de la folie et qui créent aussi cette catégorisation et cette souffrance. Et que je pense qu'il y a quelque chose de... Moi, je ne suis pas pour oublier cette individualisation et ces souffrances personnelles. Mais il y a un moment, il faut quand même qu'on se questionne ensemble qu'est-ce que c'est ce monde qui crée ça. Et je ne sais plus ce que tu disais, justement, Antoine, qui me touchait beaucoup, c'est à quel point on génère du monstre. Et à quel point, justement, la folie, le monstrueux, tout ça, c'est mis en place avec... Voilà, c'est à ça que ça m'a renvoyé ces questionnements-là, en tout cas, cette exposition.
Le fou dont on se moque, ça me rappelle aussi quand Albert Londres, au début du XXe siècle, décrivait comment des psychiatres dans les asiles d'aliénés ouvraient leurs portes à des visiteurs pour montrer leur fou, comme on visite un zoo. Quoi.
C'est ça. Tout à fait.
Allez, médecins, c'est quand même quelque chose. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour eux. C'est quand même pas clair, les mecs.
Donc oui, c'est une exposition au Louvre et qui a fait l'objet aussi d'un documentaire, Figure du fou, d'un documentaire sur Arte qu'on peut encore voir. Eh bien, on peut parler aussi peut-être de Bruxelles et du Piano Hotel.
Ouais. Ok, bah du coup, nous on est revenu il n'y a pas si longtemps que ça d'un week-end à Bruxelles. On a été rencontrer des poteaux qu'on avait rencontrés aux assises de la santé mentale. Enfin, c'est pas comme ça que ça se. C'est les assises.
Citoyennes, je crois. C'était déjà un off de la.
Oui, assises. C'est ça, c'est un contre-assise de la santé mentale, oui. Macron. Et là, c'était plutôt. C'est les assises, ça regroupe plutôt la psychothérapie institutionnelle.
Pas mal, oui.
Voilà. Ouais. Nous, on était sur l'atelier numéro 6, donc c'était la clinique des marges. Donc c'était plutôt. Où on avait invité un peu les trucs un peu anti-psy, enfin qui flattaient avec ça. Et on a rencontré. Bon, on s'est fait chier là-bas aussi.
Oui.
Mais du coup, ça nous fait dire qu'à chaque fois qu'on va dans des trucs, on est quand même assez critique et on s'emmerde. Donc il va falloir qu'on monte notre propre festival parce que c'est bien beau de critiquer, mais voilà, il va falloir faire des trucs. Et donc, ouais, on en reparlera quand ce sera l'occasion, mais voilà, on est un peu en réflexion là-dessus. Et du coup, bah, les débats, on n'a pas pu les avoir avec le Piano Hotel, et qui est donc, eux, c'est un collectif aussi, qui ont ouvert, il y a depuis maintenant 15 ans, un bar-resto à Bruxelles, dans la capitale même. Et le point de départ, c'est un peu comme à Démocratie aussi, c'est des soignants qui supportaient plus l'hosto, qui sont barrés avec des patients et qui ont mis en place ce café. Et du coup, il est ouvert tous les jours, c'est bénévole, il s'y passe plein de choses. Il y a pas mal aussi d'ateliers de réflexion sur les questions de la folie. Mais pas que, c'est très ouvert aussi sur le tissu associatif, politique, etc. du quartier. Il s'y passe plein de choses. Nous, on avait aussi envie de voir c'était quoi cette expérience-là. Et puis aussi de pouvoir discuter avec eux. Donc ça va faire l'objet d'un podcast là, qui est en cours de montage. Aussi sur cette question de... eux, en fait, ils revendiquent la porosité des rapports entre soignants et usagers. Donc nous, on a voulu discuter aussi de ça avec eux sur le fait que... évidemment, nous, on est un peu là-dedans. On pense qu'il y a pas de, il faut abattre les rapports de domination, mais que pour autant, il y a des intérêts particuliers et qu'il y a aussi une histoire particulière des soignants qui, c'est un peu l'accroche à un moment donné qu'on a dans le podcast avec eux, que bah, nous, on a une histoire de bourreau, quoi, qu'on a enfermé des gens, qu'on a accompagné ce système coercitif. Ça, c'est déjà d'une part. Il va falloir peut-être qu'on se le dise aussi, quoi, qu'on fasse le bilan de tout ça. Et puis qu'aussi on a des intérêts propres par rapport à la hiérarchie, par rapport à l'institution. Je dis tout ça parce que nous, à Démocratie, il y a la question de l'auto-organisation des fous, des folles, mais il y a aussi la question de l'auto-organisation des ouvriers du soin.
Alors, ceux que tu appelles les ouvriers du soin, ce sont les soignants qui sont au plus proche des...
C'est ceux qui décident pas de la production de soins, quoi. C'est à peu près tout le monde, sauf le psychiatre, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis, j'exclus aussi les managers... Mais voilà. Mais quoique maintenant les petits cadres de santé sont quand même bien opprimés aussi dans le système. Mais bon, ils sont encore courroies. Voilà. Je sais plus où j'allais là. J'ai perdu mon truc. Enfin, tu vois, il y a cette question à Démocratie de comment aussi à la fois de construire d'accompagner la construction d'un. De l'autogestion des fous, mais aussi comment on fait alliance aussi. Oui. Parce qu'on ne prendra pas l'hôpital de manière définitive, de manière macro, sans penser cette question-là, quoi. Voilà. Nous, on est dans le temps, on a un rétro-planning de 150 ans. Donc voilà. Mais on pense qu'il va falloir aussi penser cette question-là. C'est peut-être pas la priorité, mais on avait l'occasion d'en discuter. Donc voilà, c'était assez...
Et c'est ce collectif de Bruxelles qui vous a encouragé donc à rouvrir ce café à Vitry, enfin pas seulement.
On l'avait déjà sur Montreuil, donc on avait déjà cette expérience-là sur Montreuil.
Oui, bien sûr.
Mais eux, ils avaient du coup, nous c'était dans un squat, c'était à l'arrache, même s'il était très bien notre café, mais eux ils sont vraiment dans un café installé, c'est un vrai café quoi, avec un débit de boisson et tout, voilà. Donc c'était aussi comprendre comment ils avaient réussi cette expérience-là, comment ça marchait. Et vraiment, donc c'est, l'adresse, c'est la rue Haute. Je ne sais plus le numéro, mais il faut vraiment y aller, quoi. C'est juste incroyable là-bas.
Oui, Bruxelles, c'est pas loin de Paris.
Ouais, c'est super là-bas. Et ils ont aussi, ils sont en chemise avec l'autre lieu, qui est là un groupe, un collectif avec des fous, des folles, et aussi qui ont l'air de faire des trucs très chouettes.
Voilà. Alors, on va juste évoquer donc l'événement du 22 novembre 2024 qui se passe à Vitry, 13 avenue Constant Coquelin, tramway 9, arrêt Constant Coquelin.
Absolument.
Au centre social des Portes du Midi. Ouais,
à partir de 18h et jusqu'au 13-12, au 13 décembre. Voilà,
donc vous êtes bienvenue.
Oui, venez. On va se marrer.
Et voilà. Et bon. À toi, Gaspard, tu voulais dire quelque chose Ah, d'accord. Eh bien, merci
de Denis.
Votre visite.
Et merci beaucoup.
Ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. Et salut. We'll be right back. Et nous vous proposons maintenant d'écouter l'émission suivante, qui est un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
Faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cause. C'est ça la médecine, me faire la guillotine.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Mais les autres étaient fans d'outard.